Donc là, on vient d'arriver au Justicia. On est à l'arrêt Fusée à Evere, et comme d'habitude, on attend Clémence, qui est légèrement en retard. On regarde autour de nous, et là, on remarque qu'il y a vraiment des flics partout.
Bah ouais, d'ailleurs, il y en a deux qui viennent nous demander qu'est-ce qu'on faisait là. C'était un peu stressant, mais en même temps, ça montre que c'est hyper sécurisé.
Ouais, mais en même temps, c'est normal. On est quand même juste en face de l'OTAN.
D'ailleurs, je sais pas si je t'ai déjà raconté, mais la première fois que je suis venue ici, on m'avait dit « Oui, Émilie, c'est dans les bâtiments de l'OTAN, etc. etc. » Du coup, moi, premier degré, je pensais que c'était dans les bâtiments de l'OTAN. J'ai voulu rentrer dans l'OTAN, et là, on m'a dit « Non, non, en fait, c'est des anciens bâtiments, donc c'est juste en face. »
Bonjour, désolée d'être en retard.
Oh bon, c'est pas grave.
Et ça me fait toujours hyper bizarre de venir du centre de Bruxelles jusqu'à ici, parce que le centre il est super animé, et bah ici il y a jamais personne.
Ouais, si jamais tu fais attention, bah en fait on entend juste quoi ? Les avions et les oiseaux. Let's go, on va faire les contrôles.
Sept ans plus tard, le traitement des victimes au procès des attentats de Bruxelles, une trilogie réalisée par Clémence Dascott, Laetitia Menet et Émilie Van Hemelen en collaboration avec Radio Campus Bruxelles. Épisode 2, Le Justicia.
Par une.
Je dois vous avouer que la première fois que je suis venue ici, j'étais tellement surprise par le nombre de contrôles par lesquels on doit passer.
Bah, je pense qu'on vient de passer par 5 contrôles.
Oui, d'ailleurs, moi, celui qui m'a vraiment choquée, c'est le deuxième. J'avais l'impression d'aller en vacances parce que je me suis vraiment crue dans un aéroport. Il faut donner son sac, retirer sa ceinture, sa veste.
Mais la première fois qu'on est venu, et j'avais un baume à lèvres dans ma poche et ils ont pris carrément mon baume à lèvres. Et c'est pas tout, ils l'ont mis dans un énorme sac en carton. Et dessus, il était écrit, je pense, « déchets classifiés ». C'était, ouais, un peu bizarre quand même.
C'était trop drôle parce que j'avais ma boîte à lunettes et on pensait que j'avais un objet étrange. Alors que je disais, mais non, c'est mes lunettes, tout simplement. Et donc, on m'a fait sortir toutes mes affaires de mon sac. On dit oui, il y a un contenu étrange, mais c'est une boîte de lunettes. Et vous avez quoi dedans ? Mais mes lunettes. Et donc, je suis restée 5 minutes avec cette histoire-là.
Si même faire rentrer des lunettes, c'est compliqué, imaginez-nous quand on a voulu faire rentrer un micro. Finalement, on a dû lâcher l'affaire.
Ce qui est aussi hyper perturbant, c'est le nombre de fois où on contrôle notre carte d'identité.
Mais oui, elle reste constamment dans notre main. On ne la lâche jamais. D'ailleurs, on doit au moins la montrer 3 fois.
Parce que si je me rappelle bien, là, on vient de la donner à l'entrée du Justicia, puis juste avant d'entrer à la salle d'audience. Et on a même dû la donner quand on a donné notre téléphone, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la salle d'audience avec notre téléphone. En entrant dans le Justicia, en plus des policiers, ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est les gens, ils ont tous un espèce de collier avec des couleurs différentes.
Ouais, c'est un code couleur pour différencier les statuts des différents participants au procès. Par exemple, pour les parties civiles, elles peuvent choisir entre le rouge et le vert. Le rouge, c'est si elles veulent pas parler à la presse, et le vert, c'est si elles sont OK avec ça.
Il y a aussi des personnes avec des chasubles bleus. Il est écrit dessus « Service d'accueil aux victimes ». Ce sont des assistantes de justice qui travaillent avec la maison de justice de Bruxelles.
Je suis une victime, je suis constituée partie civile, je pense avoir été très bien accueillie par la maison de justice. Je trouve qu'il y a encore des démarches à faire pour prendre en compte davantage l'humain dans cette question de victime. J'ai encore un peu l'impression que les victimes d'un tel attentat sont encore fort traités comme s'il s'agissait d'un vol d'autoradio ou d'un vol de bicyclette. C'est surdimensionné, hein. C'est des couloirs, on peut faire circuler de front 6 ambulances ou 6 camionnettes de police. Et on se promène là tout seul, la cantine réservée ou l'espace réservé aux victimes est à environ 1000 mètres de là. Et donc, dans cet immense bâtiment, grouillait quand même pas mal de personnes. Il y avait beaucoup de policiers en armes, un climat assez tendu, perceptible. Et je me suis retrouvé dans cette cour, dans cette salle d'audience, assez bondé, policier. Enfin, donc c'est la première fois que je voyais cette cour avec les détenus. Et donc, effectivement, ça n'a pas été très bien. Et donc, heureusement que la maison de justice était là.
La maison de justice, elle est bien présente aux justiciables, mais au début, on ne comprenait pas trop leur rôle. Donc, on est allé discuter avec Pascal et Christelle, qui ont commencé par faire ce qu'elles font le mieux. Elles nous ont présenté les lieux.
Alors, je vais vous demander de visualiser les choses. Vous avez, quand vous arrivez dans la salle, sur la droite, vous avez les accusés. Sur la gauche, vous avez les jurés. En face de vous, vous avez la présidente, le parquet fédéral. Et entre ça, ça fait un carré. Et nous, on a en fait des bureaux qui sont fermés. Là derrière, on a plusieurs petits locaux individuels et nos locaux de réunion ou de débriefing entre nous. Et ces locaux individuels sont un peu tristounets dans le sens qu'il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur, etc. Donc on a essayé de les aménager avec un peu des plantes, des fauteuils, etc. Maintenant, il y a aussi une salle commune qui est disponible pour les victimes qui, elle, est près de la cafétéria, où là, elles peuvent se réunir simplement entre elles. Et là, par contre, il y a une vitre qui donne vraiment sur l'extérieur, il y a de la luminosité, donc là, c'est un peu plus confortable. Notre service est un service public dont la fonction de base, c'est d'éviter ce qu'on appelle la victimisation secondaire. Donc, c'est-à-dire que le fait que la victime soit confrontée au système judiciaire, c'est d'essayer d'éviter que cette confrontation ne rajoute pas une souffrance complémentaire à ce qu'elle peut vivre. Puis il y a l'assistance à l'audience, le jour de l'audience ou les jours d'audience. Et là, c'est être présent, encore une fois, pour pouvoir donner des informations, mais également pouvoir offrir un soutien émotionnel et une assistance, que ce soit au niveau du greffe et autres. Alors, soutien émotionnel, c'est peut-être simplement le fait d'être assis à la côté de la personne et de pouvoir lui prendre la main si c'est nécessaire, c'est éventuellement leur donner une balle anti-stress. Ça peut passer aussi après un moment au moment où la personne en a besoin, de la faire sortir de la salle d'audience, aller dans des bureaux spécifiques où elle va pouvoir s'exprimer, où on va pouvoir débriefer de ce qui se passe. Il y a avec nous aussi des personnes du service d'aide aux victimes qui sont des psychologues, qui sont présentes, et ça, c'est vraiment spécifique pour ce processus. Et donc, si jamais la personne a vraiment besoin peut-être d'un soutien plus psychologique, on peut les orienter vers nos collègues.
La séance vient de se terminer. C'est la pause du midi. Au Justicia, il n'y a pas grand-chose à manger. Si on arrive après 10 heures, on peut même plus commander.
Yep. Résultat, tout le monde se retrouve soit pour une soupe au Décathlon, soit pour un burger au Quick.
Oui, d'ailleurs, ce qui m'a étonnée, c'est de se retrouver au Quick avec des avocats, des journalistes, ou même des accusés qui comparaissent libres.
C'est vrai que ça m'avait perturbée aussi, voir toutes ces personnes si différentes qui mangent au même endroit, je sais pas, je trouvais ça vraiment bizarre. Mais en même temps, c'est cool ce moment de break en dehors du Justicia. Ça permet de revenir sur les moments qui sont quand même compliqués de l'audience, entre nous, avant d'y retourner et d'entendre de nouvelles infos.
Ouais, c'est sûr que ça fait du bien, parce que assister à ce genre de procès, c'est pas facile. Et je sais qu'à Paris, les parties civiles, elles avaient elles-mêmes demandé à ce que les images soient diffusées à la cour. Mais nous, on s'est demandé ici, donc on a demandé à Maître Gérard si c'était pareil ici et quelles avaient été les démarches de la cour par rapport à tout ça.
Alors, du fait que les débats sont oraux et du fait qu'on doit tout remontrer et tout réexpliquer, il y a effectivement plusieurs choses qui peuvent choquer des victimes. Comme par exemple, on a eu la DR6, donc les officiers de police judiciaire qui sont venus donner des explications par rapport aux premières constatations dans le métro. Et effectivement, ça peut être choquant pour des victimes. Mais la cour est bienveillante. Et dans sa bienveillance, la cour a demandé aux enquêteurs, lorsqu'ils prennent la parole et qu'ils vont être amenés à projeter des choses choquantes, de prévenir pour que les personnes éventuellement présentes sur la place, si ce sont des victimes ou autres, puissent avoir la possibilité de pouvoir sortir de la salle d'audience. On a prévenu les parties civiles qu'il y allait avoir aux audiences des choses difficiles. On les avait préparées à ce que les audiences ne soient pas faciles, parce que ce sont des audiences où on juge de faits qui sont horribles et où on juge effectivement on est obligé de projeter des choses qui ne sont pas faciles à regarder.
Je pense que la cour doit montrer ce qui s'est passé. Je pense même que ça ne rend pas encore entièrement... compte de ce qui s'est exactement passé. Ça s'est passé il y a 7 ans. De manière ou d'une autre, j'ai évacué, je suis parvenu à évacuer toutes ces difficultés. Je suis parvenu à ne pas en parler, à ne pas voilà, revivre, ressasser, même si ça me vient souvent à l'esprit. Et donc, ce n'est que quand on est dans cette cour qu'on peut comprendre vraiment ce qui s'est passé. La douleur, cette agression soudaine, cette bêtise. Personnellement, je me pose des questions de pourquoi, pour ce qui me concerne donc, avoir vécu ces attentats est encore quelque chose de pénible aujourd'hui. Parce que je ne suis pas mort. Hein. Et donc, parce qu'en fait, il y a un élément de culpabilité qui s'installe. J'ai rencontré la mort subitement et de très près.
Au Justicia, il n'y a pas que les assistantes de justice en fait, qui ont une chasse du bleu-bleu. Dans le carré, il y a aussi Lucky. C'est un golden retriever de 2 ans. Avec ses poils blonds et sa chasse huble de la SBL Osmose, bah, en fait, il est là pour apaiser les victimes.
Donc, moi, je m'appelle Amy. Je suis inspecteur à la police de Bruxelles, capitale XL. Ça fait un peu plus de 6 mois que je travaille avec Lucky. Et Lucky, donc, c'est un chien d'assistance. On l'a appelé chien de confidence. Et il est là pour en fait soutenir les victimes qui viennent porter plainte à la police pour des moments, allez, pour des faits qui sont traumatisants. On travaille aussi au procès des attentats de Bruxelles. On est dans la salle d'audience avec les victimes. Et le but, c'est qu'ils soient là pour apaiser les victimes quand il y a des moments qui sont difficiles. Par exemple, quand il y a eu les présentations du labo ou du DVI, avec les identifications des corps, etc., bah, il y a eu beaucoup de photos qui n'ont pas été faciles à voir. Il y a beaucoup de victimes qui ont eu très difficile à ce moment-là. Bah, à ce moment-là, je passe avec Lucky entre les chaises. Ouais, il vient et maintenant, enfin, il y a une nouvelle commande qu'on lui apprend, c'est le mot câlin. Et en fait, il vient poser la tête sur les jambes des gens. En général, sa position préférée, c'est qu'il se couche sur le dos, les 4 fers en l'air, et il attend qu'on lui gratte le ventre. Il y a eu un moment où il y avait un témoignage, le témoignage d'une personne qui était présente, qui a vraiment eu très difficile. Mais c'était hyper poignant, en fait, parce qu'il a vraiment eu difficile pendant son témoignage. Et donc, c'est la première fois que Lucky a accompagné ce monsieur devant la cour. Et quand il est sorti, le monsieur, franchement, il a éclaté en sanglots. Et Lucky était entre nous. Et il a vraiment, en fait, il savait pas quoi faire. Enfin, on voyait qu'il était assis, il nous regardait, il essayait de faire des bisous à gauche, à droite. Et on voyait qu'il ressentait quelque chose, mais il savait pas, à ce moment-là, je pense qu'il savait pas comment réagir, tellement il y avait d'émotions.
Je trouve que le chien, qui s'appelle Lucky, donc Lucky a vraiment un nom qui convient très bien à ce genre de cour d'assises, est vraiment le bienvenu. Il canalise un peu, il peut absorber l'émotion. Je pense que ça fonctionne très très bien. J'ai comme l'impression que ce chien peut même identifier qui sont les personnes qui ont besoin. Donc, ce chien vient un peu comme ça se coucher, s'asseoir à côté comme ça de certaines personnes. Et après analyse, effectivement, ce sont les personnes qui souffrent énormément.
J'ai eu des bons retours, que ce soit les juges d'instruction ou les magistrats, surtout quand Lucky a accompagné le monsieur dans la cour pendant son témoignage. Et quand il y a eu le labo qui a montré les photos et tout, bah là, la présence de Lucky était super utile. Et ce qui est génial, en fait, que j'ai remarqué, c'est quand il y a vraiment des moments difficiles où les personnes ne se sentent pas bien, pleurent, dès que Lucky arrive avec sa tête, les gens sont là « Oh !» Et du coup, bah, ça leur change directement les idées, et le caresse et tout, et ça les coupe, en fait, dans l'émotion. Et franchement, depuis que je participe au procès, je regrette. Il y a des moments où c'est très dur, mais c'est génial parce qu'on voit vraiment que le qui apporte quelque chose en plus et on voit vraiment qu'il rassure les gens.
À Bruxelles, il existe deux chiens de confidence. Il y a le qui et aussi Switch dans la zone de police Bruxelles-Nord. Le qui reste donc assez unique. Il a un compte Instagram, le qui _ Paul Bru.
C'était 7 ans plus tard, le traitement des victimes au procès des attentats de Bruxelles, épisode 2, avec les voix de Maître Valérie Gérard, Pascal Prudhomme, Christelle Andries, Amy, Jessie, une victime qui a préféré rester anonyme, Clémence Dascott, Laetitia Menet et Émilie Van Emmelen, sur une musique d'Olive Howe.
Dans le prochain épisode, nous allons suivre la préparation au témoignage des victimes.